Bonjour à toutes et à tous. Bon, ça fait maintenant plus d'un mois qu'on est tous confinés chez nous. Bon, les décisions du gouvernement, elles bouleversent effectivement nos habitudes, nos comportements et surtout d'un point de vue du numérique, hein, elles bouleversent notre rapport au numérique. Télétravail, continuité pédagogique, réunions professionnelles, apéro en visioconférence, séances de sport à distance. Voilà, tout ça devient un peu notre quotidien depuis plusieurs semaines maintenant. Mais effectivement, tous ces effets du confinement, est-ce qu'ils n'amplifient pas la numérisation de nos vies? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre ce qui se joue durant cette période exceptionnelle que nous vivons. Donc pour cela, on a deux invités, Gaspard et Valentin. Donc Gaspard, toi, tu travailles pour une régie de distribution d'électricité. Bonjour Gaspard, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est exactement?
Bonjour à toutes et tous. Une régie de distribution d'électricité, c'est un modèle de service public local pour s'occuper en l'occurrence du réseau électrique. Ça peut être à l'échelle d'une ville, d'une intercommunalité ou même d'un département. En l'occurrence, pour moi, il s'agit du département des Deux-Sèvres.
Merci. Et on a Valentin. Donc toi, Valentin, tu travailles pour CLIS 21. Donc c'est une coopérative informatique qui est plutôt basée dans le bassin minier, donc beaucoup plus proche. Tu peux nous dire ce que c'est?
Oui, bonjour. Effectivement, on est une entreprise, une coopérative d'informatique libre. On développe et on fournit du service informatique avec uniquement des logiciels libres. Donc les logiciels libres, c'est des logiciels alternatifs aux logiciels qu'on connaît généralement. C'est les logiciels comme LibreOffice, Mozilla Firefox, qui ont d'autres modes de développement, d'autres rapports aux produits de ce qu'un logiciel. Et qui sont généralement gérés par des communautés à des fins non marchandes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'on essaye de promouvoir aujourd'hui.
Merci Valentin. Donc on comprend que c'est les questions qui touchent au numérique, que ce sont des sujets qui vous intéressent particulièrement. Avec ce confinement, on assiste à une généralisation du télétravail et donc du coup on doit faire face à l'usage contraint ou pas de nouveaux outils numériques. Quel changement y voyez-vous?
Effectivement, il y a des changements qui sont relativement importants. Et le changement le plus important, je dirais, c'est qu'avec le confinement, on se retrouve tous à travailler avec nos propres outils à nous sur nos machines personnelles. On se retrouve dans un coin de l'appartement sans être particulièrement préparé au télétravail. C'est-à-dire que je me retrouve avec mon ordinateur, ma connexion Internet, mon adresse IP et je dois utiliser des logiciels que je n'ai pas forcément choisis, que mon entreprise me demande d'utiliser. Et en fait, on va se rendre compte que ce n'est pas toujours des logiciels qui sont bénéfiques pour les usagers, c'est-à-dire que c'est des logiciels très souvent qui sont propriétaires, qui sont demandés par l'entreprise et qui sont pas respectueux particulièrement des données personnelles des gens. Et ça pose problème parce que vous vous retrouvez avec des données personnelles, justement, que vous utilisez dans un cadre personnel et vous êtes obligé de fournir un certain nombre d'informations pour travailler.
Moi, je vois ça avec une personne avec qui j'habite et qui travaille dans l'éducation nationale. On se voit clairement que ce que tu décris, là, Valentin, le fait de ne pas être préparé, à la fois c'est fait individuellement, mais c'est l'effet aussi à l'échelle du corps d'une institution publique qui est l'éducation nationale, puisque les outils que la personne avec qui je vis sont qui servent en fait à établir un contact avec les élèves et les professeurs n'ont pas du tout été bien dimensionnés. Ils sont accessibles une partie de la journée seulement et ils supportent pas l'afflux simultané de tous les élèves. Et du coup, la conséquence, c'est que les enseignants sont souvent utilisés de basculer sur des outils propriétaires qui sont pas forcément respectueux des données personnelles, des contenus pédagogiques, mais aussi informations confidentielles et personnelles des élèves.
Donc justement, tu citais l'exemple de l'éducation nationale, Gaspard, et on s'aperçoit que pour reproduire ces situations d'échange réel, on est presque obligé de passer par la visioconférence, parce que c'est pratique, c'est pragmatique, mais quelles sont les conséquences que ça entraîne?
Bah déjà d'un point de vue écologique, il y a un très bon rapport de Shift Project sur la sobriété numérique qui est sorti il y a quelques temps. Bon, il n'est pas actualisé forcément aux événements récents qui ont complètement bouleversé un peu l'échiquier des consommations des usages numériques, mais donc ça donne une idée avant, et déjà à ce moment-là, le numérique de manière générale, il émettait 4% des gaz à effet de serre mondiaux, et la consommation énergétique du numérique s'accroissait de 9% par an. Avec des outils vidéo qui sont très énergivores, comparé au son, où la vidéo c'est 100 fois plus de consommation de données que le son par exemple, on voit bien que la visio, on ne peut pas appeler ça de support qui est sobre, écologiquement parlant en tout cas.
Et je pense qu'il faut aussi souligner l'aspect prédateur aussi de ces outils de vidéoconférence, en tout cas pour la plupart, et ceux qui sont le plus en vogue aujourd'hui. Pour les citer, on peut parler de Skype ou de Zoom, qui sont beaucoup utilisés par les entreprises. C'est des outils qui sont quand même relativement prédateurs sur le plan des données personnelles. C'est-à-dire que vous les utilisez, et ensuite les logiciels vont aussi se charger de récupérer l'intégralité des données, c'est-à-dire de ce qui est écrit sur le chat, vos heures de connexion, les mots qui sont dits, les habitudes, la fréquentation que vous avez de ces outils-là, pour analyser le tout et ensuite s'en servir ensuite à des fins commerciales. Donc il faut bien comprendre aussi qu'il y a ces outils-là. Et généralement, c'est aussi des outils qui sont, on dit propriétaire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement comment ils fonctionnent et ce qu'ils font. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de regarder plus largement sur votre ordinateur, regarder des dossiers dans votre ordinateur, regarder des journaux de fichiers qui sont dans votre ordinateur? On peut pas, on n'a pas moyen de le vérifier parce que le code est complètement verrouillé. Et donc on ne peut pas avoir une très grande confiance dans ces outils. Et c'est bien contre ça qu'on essaye d'aller, nous en tout cas à Clics Inter et plus largement dans le monde du logiciel libre, où on essaye de promouvoir d'autres outils qui sont justement les logiciels libres. Pour bien comprendre, hein, les logiciels libres, ce sont des outils informatiques dont le code source, est visible sur Internet. Chacun peut y accéder, le lire, mais il peut aussi, s'il le veut, le modifier, proposer des modifications, le redistribuer. Voilà, il y a tout un tas de règles qui doivent être respectées pour que le logiciel soit libre. Mais une des règles fondamentales, c'est vraiment que le logiciel soit visible et qu'on puisse lire le code. Alors j'en conviens, moi en tout cas, je ne suis pas capable de lire le code informatique, mais ce qui est intéressant, c'est que on peut faire confiance au fait qu'il y ait un nombre suffisant d'informaticiens qui passent régulièrement sur les grands logiciels libres pour valider que le logiciel fait bien ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petits programmes cachés qui vont être néfastes pour votre sécurité, qui vont vous donner un virus, qui vont vous donner des choses dont vous ne voulez pas. Là, on peut faire confiance en fait au logiciel puisqu'on en connaît la recette. Et c'est bien ce genre d'outils qu'on essaye de promouvoir parce que nous, on estime que seul en ces outils, on peut avoir confiance. Si l'outil n'est pas libre, alors on ne sait pas exactement ce qu'il fait, et potentiellement il fait des choses qui sont néfastes à l'utilisateur. Et c'est bien le problème avec ces grands outils de visioconférence qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils font. Les plateformes essayent effectivement de dire que non, elles utilisent plus ou moins les données personnelles. On a noté que Zoom avait changé 3 fois les conditions générales d'utilisation en une semaine. On a quand même des choses qui sont assez inquiétantes. On ne sait pas vraiment comment ça marche, les choses ne sont pas très très claires. Donc effectivement, on essaye de promouvoir d'autres outils respectueux de vos ordinateurs et de vos données. Au premier desquels, Jitsi, un logiciel de visioconférence qui est libre et potentiellement qui peut être décentralisé, que vous pouvez utiliser sur les serveurs des personnes dont vous avez connaissance et en qui vous avez confiance. C'est probablement une des bonnes solutions.
Au-delà de l'impact sur les données personnelles et de l'impact écologique purement lié à l'utilisation de cette visioconférence, faut avoir en tête que le modèle de vente des données dont parle Valentin, ça s'inscrit de manière plus générale dans ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance. C'est toute cette ce modèle de création de valeur sur les données qui a pris une ampleur énorme ces dernières années là. Les données, c'est le nouvel or noir en fait pour beaucoup. Les données publicitaires, elles vont aussi permettre de créer des nouveaux marchés et de pouvoir cibler précisément ce que vous, consommateurs, vous avez envie d'avoir, et donc de manière générale à augmenter la consommation et donc le modèle de grande consommation et les pollutions que ça engendre dans d'autres domaines qui sont même pas forcément liés au numérique au départ. Donc l'utilisation en fait d'outils propriétaires qui utilisent nos données, in fine, c'est faire partie d'un grand tout, d'être acteur d'un grand tout qui pousse à plus consommer.
Donc on comprend bien pourquoi toutes ces applications, enfin toutes ces entreprises qui développent ces applications qui ne sont pas des logiciels libres sont si intéressées par ces données. Mais qu'est-ce qu'il en est aussi des États? Est-ce que les États pourraient récupérer et utiliser ces données?
Effectivement, on voit aujourd'hui beaucoup les États parler d'applications et justement de données personnelles. Et effectivement, il y a probablement un risque, c'est-à-dire que pas plus que les entreprises, on ne sait pas ce pourquoi les États utiliseront nos données. Et surtout donner à l'État beaucoup, beaucoup un regard très important sur nos vies, et donc sur nos données. Enfin, nos données, en tout cas, reflètent beaucoup ce que sont nos vies, c'est donner un pouvoir très important à l'État. Et on outille l'État pour que plus tard, il puisse agir de façon très forte. Aujourd'hui, on est dans un État qu'on dit démocratique, républicain. Ça ne sera pas forcément toujours le cas. Et outillé comme il est, si l'État devenait plus véhément, un peu moins respectueux de nos libertés, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis à se faire en termes de répression, parce que l'État a une vision extrêmement fine de nos vies, de nos comportements, et donc il y a tout intérêt à limiter le potentiel de données que l'État peut acquérir sur nous.
D'accord, et on peut aussi évoquer les outils, au-delà des outils de visioconférence, on entend de plus en plus le gouvernement nous parler d'applications, cette fameuse application Stop Covid, en tout cas ça serait probablement le nom, qui permettrait de lutter en gros contre le coronavirus, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, à titre personnel, je trouve que c'est vraiment une fuite en avant vers la technologie. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que dans la tête de nos gouvernants, et de façon générale, peut-être dans la tête de beaucoup de gens dans la société, on a un espoir que la technologie nous sauvera. C'est un espoir qui n'est pas nouveau, qu'on retrouve pas uniquement avec le Covid. On a un peu ce même espoir pour les questions climatiques, par exemple. On espère trouver des solutions technologiques qui vont nous permettre de trouver des solutions au stockage de carbone. Et là, on est exactement en fait dans la même logique. Mais il faut bien dénoncer le fait que ça soit simplement une illusion. C'est-à-dire que ce qui permet vraiment de juguler la pandémie, c'est l'utilisation massive de tests, de masques, c'est le dépistage des populations, c'est surtout des moyens physiques et concrets, c'est mettre de l'argent dans l'hôpital. Parce qu'on est vraiment sur une crise de la pénurie, en fait. C'est vraiment la pénurie dans les hôpitaux qui font qu'il y a autant de victimes. C'est pas le manque d'informatique. Et donc l'ajout d'informatique et de numérique à tout ça ne permettra pas de juguler la pandémie. En revanche, la pandémie est un très bon moyen pour faire passer rapidement beaucoup, beaucoup de lois, faire passer beaucoup et accélérer la mise en place de l'informatique, du numérique, et aller plus avant dans ce rêve technologiste. Le gouvernement, par exemple, pour n'en citer qu'un, a autorisé dans la loi sur l'état d'urgence sanitaire le 23 mars, l'accélération et le développement des antennes 5G en autorisant plus rapidement leur mise en place et en réduisant les éventuels frottements, c'est-à-dire les oppositions que pouvaient donner les maires ou les populations locales. Là, le gouvernement a donné carte blanche aux opérateurs pour développer la 5G dans le cadre de la crise du Covid.
Bah pour voir par rapport à l'application Stop Covid dont tu parlais, Arthur, il y a un protocole assez précis qui est pressenti pour être utilisé dans le déploiement de cette application, qui s'appelle le protocole DP3T. Bon, c'est un peu barbare, mais si ça peut servir à regarder un petit peu comment ça marche, ce truc. Il y a un très bon thread Twitter d'un informaticien et spécialiste des questions de données qui s'appelle Rand Indy, qui explique très bien comment ça fonctionne. En gros, pour le dire en deux mots, ça utilise le Bluetooth de notre smartphone. Il faut en avoir un déjà, hein. Et ce Bluetooth qui est activé tout le temps va permettre, dans un rayon de quelques mètres, de savoir qui est passé proche de nous. Et si la personne qui a été proche de nous s'avère être infectée à un moment donné, eh bien, on sera prévenu qu'une personne autour de nous a été infectée, sans savoir laquelle c'est. C'est un peu comme ça que c'est censé fonctionner. Mais ce qu'on ne nous dit pas tant que ça pour l'instant, c'est que pour remplacer un peu le confinement actuel et pour pouvoir redémarrer l'économie, on a besoin d'un nombre important de personnes qui utilisent l'application. Alors le gouvernement, et notamment Emmanuel Macron dans son discours du 13 avril, insistait sur le fait que ça serait quelque chose qui concernerait les personnes volontaires. Mais il y a une étude dans Science qui est sortie il y a quelques jours, dans la revue Science, qui disait qu'il fallait 60% d'utilisateurs sur un territoire pour que cette application soit efficace. En comparaison à Singapour, sur lequel il n'y a pas eu d'obligation pour l'utilisation d'une application similaire, il n'y a eu que 15% des personnes qui l'ont spontanément installée. Alors que c'est un pays qui dispose d'un très bon taux de smartphones par rapport aux personnes dans le pays. Donc on voit bien que si c'est pas obligatoire, cette application elle va pas être très efficace. Un autre point sur ce protocole DP3T, c'est que pour faire fonctionner l'application, il faut bien évidemment qu'il y ait une mise en quarantaine des personnes qui sont suspectées ou d'avoir été en contact avec des personnes qui ont été contaminées. Sauf que bah, si on n'a pas assez de tests, les personnes qui vont être suspectes mises en contact, il y en aura beaucoup. Puisque si on n'est plus confiné, il y aura beaucoup de gens qu'on va croiser pendant quelque temps. Et tout le travail et le rapport humain qu'il y a dans une enquête épidémiologique d'un médecin qui va suivre non seulement les symptômes qu'on a et le coupler avec la relation qu'on a eue avec les personnes qu'on a croisées, la durée, la proximité. Eh bien ça, c'est complètement terrassé au profit de critères grossiers et arbitraires informatiques. Un dernier point, et puis c'est que il peut y aussi y avoir un risque de glissement entre le but initial de cette application et quelque chose de beaucoup plus liberticide. Non plus l'information des citoyens de qui on a croisé est potentiellement malade, mais vers du contrôle policier ou du contrôle par l'employeur de ce qu'on a pu faire et de si on est malade ou non, et aussi du contrôle pour accéder à certains lieux publics. Enfin, il peut y avoir vraiment des risques de glissement et ça, on n'a pour l'instant aucune garantie.
Donc, on peut comprendre effectivement pourquoi ces outils peuvent nous inquiéter et nous poser question, mais est-ce qu'on ne peut pas également se rassurer en se disant que qu'ils n'ont pas vocation à rester dans le temps et qu'une fois la crise sanitaire passée, eh bien, on ne pourra plus utiliser ces outils?
Oui, moi je dirais qu'on peut toujours l'espérer que ça soit le cas et que ces outils disparaissent après la pandémie. Sauf que aujourd'hui, on est en train de faire la preuve à grande échelle que ces outils peuvent apporter quelque chose En tout cas, ils sont en train de les expérimenter à grande échelle. Mais le problème, c'est qu'ils ont été apportés sans vrai débat démocratique. Les utilisateurs ont très peu de maîtrise sur ces outils. Probablement, encore une fois, ils ne seront probablement pas libres. On n'aura probablement pas un regard citoyen qui va analyser ces outils. Et malheureusement, est-ce qu'ils vont rester? C'est difficile à dire. Des mesures exceptionnelles d'état d'urgence ont pu durer très longtemps sous le précédent gouvernement sous Hollande. L'état d'urgence qui avait été décrété après Charlie Hebdo est resté pendant 2 ans et la plupart des dispositifs liberticides qui ont été mis en place ont été intégrés dans le droit commun afin de pouvoir perdurer au-delà de l'état d'urgence. On n'est pas à l'abri de ça. Malheureusement, on est en train de faire la preuve du concept aujourd'hui. Demain, probablement, les dirigeants vont vouloir garder ce type d'outils, prétextant sécurité, prétextant l'analyse pour éviter toute rechute ou je ne sais quoi, mais on les gardera ces outils.
D'accord, donc c'est pour ça qu'on entend souvent dire que cette période servirait de laboratoire à grande échelle. Et que penser des initiatives des GAFAM? Donc je rappelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, puisqu'on a vu récemment dans la presse que notamment Apple et Google comptaient s'allier pour développer ensemble des solutions technologiques pour lutter toujours contre le Covid.
Oui, effectivement, c'est assez amusant de revoir arriver sur le devant de la scène les GAFAM qui profitent bien de la crise pour rappeler leur prédominance sur les marchés numériques. Effectivement, on a vu il y a quelques jours effectivement Apple et Google s'allier sur ce qui est au fond un de leurs cœurs de métier, c'est-à-dire la capacité à suivre. Et à localiser la plupart des, à localiser les utilisateurs, à localiser les citoyens, et à analyser les données de façon massive pour fournir au gouvernement des taux et tout un ensemble d'informations qui lui permettent de dire est-ce que les Français sortent plus ou moins qu'avant, plus ou moins qu'au début du confinement. On voit bien là qu'ils rappellent un peu quel est leur cœur de métier, c'est-à-dire l'espionnage de façon industrielle. Et on a aussi eu une jolie tribune de Microsoft qui appelle à trouver un vaccin qui doit être, selon les mots de Bill Gates. Oui, pardon, c'est une tribune de Bill Gates et pas de Microsoft. Donc Bill Gates, qui est l'ancien PDG de Microsoft, qui appelle à trouver un vaccin, de façon à investir massivement pour trouver un vaccin, et qui demande à ce que ce vaccin soit un bien public mondial, ce qui est assez amusant parce que Bill Gates est quand même le père de Microsoft, qui est un des outils les plus partagés sur la planète, un des outils les plus importants, qui aurait pu être un bien public mondial, mais dont l'auteur a préféré fermer et verrouiller le code à des fins purement lucratives pour s'enrichir, ce qui a fait d'ailleurs de lui un des hommes les plus riches de la planète. Et finalement, interdire l'accès à la connaissance, l'accès à ce que lui avait écrit au plus grand nombre et à le garder et à le commercialiser.
Mais c'est aussi un, moi je trouve c'est surtout un moyen là pour les GAFAM de conquérir encore une nouvelle fois des nouveaux marchés. On a l'impression que rien ne les arrête et que ce soit dans le monde et le milieu de la grande distribution alimentaire et logistique, ils vont prendre de plus en plus de place comparé au marché et aux petites enseignes qui n'ont pas la possibilité de continuer à aussi bien fonctionner qu'avant. Dans les médias, c'est l'occasion d'utiliser et de tirer profit de l'augmentation du trafic Internet et donc encore enterrer plus profondément la presse écrite, surtout quand on voit les conflits qu'il y a sur les revenus publicitaires entre la presse écrite et ces GAFAM. Dans l'industrie culturelle, on voit que Netflix reprend une part supplémentaire de marché comparée au cinéma qui ne peuvent pas rester ouverts. Il y a un des nouveaux marchés liés au traçage des citoyens, puisque maintenant, comme le disait Valentin tout à l'heure, on a fait la preuve qu'on est capable de monétiser des mouvements de population. Bon, pour l'instant, c'est à but médical, mais peut-être que c'est des nouveaux business pour ces GAFAM à l'avenir, pour des clients aussi divers et variés que des États ou des entreprises tierces. On peut aussi parler des partenariats potentiels avec des institutions publiques qui vont être amenées à repenser leur stratégie numérique vis-à-vis du fiasco actuel. On peut penser à l'éducation nationale dont je parlais au début de l'émission. Il y avait déjà eu des discussions autour du stockage des données avec l'Amazon Cloud pour stocker les évaluations des élèves sur des serveurs qui appartenaient à ces entreprises-là, sur des contrats passés sur du matériel pédagogique et des contenus pédagogiques parfois même. Autant donc de marchés supplémentaires qui sont aspirés par ces GAFAM ces jours-ci, quoi.
Alors merci beaucoup pour cet échange, Gaspard et Valentin, et pour ces éclaircissements sur les questions du numérique. Alors en conclusion de cette émission, on peut dire que le numérique a clairement pris une place supplémentaire dans nos quotidiens, que ce soit à l'échelle individuelle, dans notre rapport au télétravail ou nos manières de communiquer avec nos proches. Et on ne peut pas nier le confort indéniable que les outils numériques apportent. Mais on s'aperçoit que le numérique transforme aussi nos rapports sociaux à une échelle collective. Pour des prétextes de santé publique, le numérique risque de bouleverser le rapport de la surveillance des autorités à notre égard. Et ce, malgré tous les garde-fous évoqués par Emmanuel Macron lors de son discours du lundi 13 avril, ainsi que renforcer une nouvelle fois, malheureusement, encore la place des GAFAM dans notre société. Il faut veiller à ce que la recherche de confort et de sécurité ne s'oppose pas avec la préservation de notre liberté. Et pour terminer, on peut paraphraser Rousseau dans son message radical du contrat social. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'être humain. Merci à tous pour votre écoute et bonne journée.